Cécile et Céline, Cécile et Céline.
Bonjour et bienvenue dans Cécile et Céline se posent des questions.
Cette émission est née d'une rencontre et d'une envie commune, promouvoir et faire rayonner nos beaux métiers de l'accompagnement.
Nous sommes toutes les deux coachs professionnels, aimons parler de choses sérieuses sans nous prendre au sérieux.
Et comme tout bon coach qui se respecte, nous sommes curieuses et avons pour spécialité de poser des questions. Et c'est à Saïda Ibaragen que nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir poser nos questions. Bienvenue Saïda dans notre émission. Cécile et Céline se posent des questions.
Bonjour Saïda.
Bonjour.
Bonjour.
Donc tu es coach professionnel certifié, tu fais de la médiation corporelle et tu as ton propre cabinet de coaching, de formation et de conseil Corevel. Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui donc, pour nous parler d'intelligence du corps. Mais avant, j'aimerais bien faire un peu plus connaissance avec toi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené au coaching professionnel ?
Bonjour Céline, bonjour Cécile, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui m'a amené à répondre à ces questions aujourd'hui, d'une part. Donc je suis en fait de formation ingénieur en informatique. Voilà, ça ouvre toutes les portes. Et puis, j'ai fait toute une carrière, en fait, dans le domaine du management, dans une grande structure internationale américaine, dans des postes de direction. Et puis, à un moment donné, j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus essentiel pour moi, qui était, en fait, l'accompagnement. Donc, j'ai décidé de quitter l'entreprise, de me former à HEC, parce que pour moi, c'était une évidence. L'école de coaching, c'était HEC. Et puis, en allant me former à HEC, en fait, moi, je danse, en fait. Je suis une passionnée de danse depuis tout le temps. C'est vraiment ma passion. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, puisque je décide de faire un changement radical, comment je peux faire avec ma pratique, comment je peux accompagner aussi. Donc, en parallèle d'HEC, j'ai fait une formation de médiatrice artistique dans un institut qui s'appelle l'INECAT, en sachant pas trop ce que j'allais en faire. Mais voilà, j'ai fait les deux formations, c'était une évidence. Et voilà, donc c'est comme ça qu'en fait j'ai développé mon activité de coaching, en tout cas ma couleur de coaching. Et voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, ce qui est important en fait, c'est que des fois on ne sait pas pourquoi on fait des choses. Donc la médiation artistique, je l'ai fait en même temps qu'HEC. Mais à un moment donné, il y a une espèce d'évidence. Alors HEC, on nous demande de faire un mémoire pour présenter sa singularité. Alors, grand moment de solitude, c'est quoi ma singularité ? C'est quoi ma singularité ? Et en fait, pour moi, voilà, c'était une évidence. C'était en fait amener la médiation, l'accompagnement par le corps dans le coaching. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait un travail de recherche, en tout cas formalisé, ce que c'est que de devenir l'artiste de sa vie, notamment avec l'approche corporelle.
Alors, tu vois, on a des points communs parce que moi, mon mémoire, donc j'ai fait HEC coaching aussi, c'était sur la danse comme outil d'accompagnement à la résilience en entreprise. On en parlera dans un autre podcast.
Dans un autre podcast. Super.
Du coup, alors moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est pour creuser juste un petit peu plus, tu dis la danse, c'est ma passion. Quel type de danse tu pratiques ?
Alors, la danse, au départ, comme j'avais pratiqué la danse un peu jazz, puis après un peu contemporain. Après, c'est vrai que je suis passée par le mouvement oriental. Alors, ce que j'appelle mouvement oriental, c'est en fait comment tout ce qui est danse africaine, orientale, sont revisités avec une approche contemporaine. Donc là, j'ai trouvé un maître qui m'a formée à ça. Et voilà, donc j'appellerais ça du mouvement oriental, même si bon, ça restera un peu, mais voilà, je trouve que c'est assez fidèle à ce que je fais, à ce que je pratique.
Donc tes coachings, pour essayer de bien comprendre, tu fais appel à l'intelligence du corps.
C'est ça. En fait, moi quand je dansais, je savais que ça me faisait du bien, même plus que ça, mais je ne savais pas pourquoi, d'accord ? Quand intuitivement j'ai voulu me former à la médiation corporelle, c'est comment c'est pas une pratique qui permet de favoriser le bien-être, même si ça peut le faire, ça favorise en fait le mieux-être, d'accord. Et tout ça mis bout à bout, après la médiation artistique, après HEC, après avoir défini, en fait, je veux dire, identifié ma singularité, je suis quand même allée creuser parce que moi, je suis voilà, hémisphère gauche, voilà, formation ingénieur, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de avant de pouvoir nommer, de comprendre en fait ce que je pratique, sur quoi ça s'appuie. Et donc, je suis allée me former à différentes pratiques, dont une, je suis tombée... in love avec une pratique, celle d'Ève Berger sur le coaching perceptif. Et parce qu'elle venait en fait nommer des choses de l'intelligence du corps dans le cadre d'un accompagnement. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé la façon de dire le lien entre ce que je sentais et puis comment le nommer, comment le présenter, comment en parler. D'accord. Donc voilà, donc c'est comme ça en fait que j'ai alimenté tout ça, puis après j'ai eu besoin de le pratiquer, une fois que j'avais compris en fait quel processus d'accompagnement je proposais. Donc j'ai créé une espèce de laboratoire à l'INECAT, là où je me suis formée à la médiation artistique, puisqu'ils ont une formation, un cursus de coaching par les arts, et en fait on m'a demandé de créer en fait le module sur le coaching à médiation corporelle. Donc ça c'était un vrai laboratoire pour moi, en amont, pendant, après, voilà, où j'ai élaboré. Et puis j'ai eu la chance aussi au sein d'HEC d'être sollicitée pour intervenir, pour faire découvrir la médiation corporelle à tous les futurs coachs de la formation Exec Coaching.
Et concrètement. Alors, concrètement. Moi, j'ai envie de me faire coacher, d'essayer la médiation corporelle. Concrètement, ça ressemble à quoi une séance de coaching avec la médiation corporelle?
Alors, en fait, d'abord, je vais peut-être présenter en fait quels sont les principes, parce que c'est important.
Bien
sûr. Ça, c'est mon côté ingénieur qui a besoin de nommer. Les principes, en fait, d'une part, c'est l'envie de créer dans une séance de coaching un espace, un nouvel espace, un espace d'expression qui soit non mental, comme on peut le faire avec d'autres outils divers et variés qu'on utilise assez fréquemment. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quand on parle du corps, moi, j'aime bien en fait rappeler ce que ça veut dire qu'être dans le corps. Le corps, c'est ici et maintenant, c'est-à-dire quand je suis réellement dans mon corps, je suis dans l'ici et maintenant. Et quand je suis dans le mouvement, en fait, mon mouvement va fédérer tous mes sens. On va parler des cinq sens dans un premier temps, on verra qu'il y en a d'autres. Et en fait, c'est ce qui est intéressant dans la pratique, le principe qui est intéressant, c'est que quand on se met en mouvement, à partir d'une intériorité, d'une présence qu'on va développer avec un certain nombre de techniques, le mouvement, en fait, il va, dans le mouvement, toutes les cellules, toutes les neurones vont se mettre en mouvement en même temps. Donc, en fait, la personne qu'on accompagne, elle va être, entre guillemets, convoquée entièrement. Et ce n'est pas seulement sa psyché, sa psychologie, c'est-à-dire sa capacité à dire, sa capacité à expliquer. Donc, dans une séance de coaching, quand on se retrouve dans des situations où la personne est beaucoup dans le récit de soi, on sent qu'il y a une butée, qu'à un moment donné, la personne se dit toujours la même chose, trouver un moyen de lui faire un décentrage classique dans le coaching, ben c'est un bon moyen de l'amener en fait à se mettre en mouvement à partir d'une intériorité et à l'accompagner en fait à aller voir ce que le corps a à dire en fait. Et quand je dis le corps, je sépare pas le corps à partir du cou. Voilà, quand je dis le corps, c'est le corps convoqué entièrement. Voilà. Donc ça, c'est un principe important. Ensuite, deuxième principe qui est très important, bien sûr, quand on propose une mise en mouvement, si je la propose comme ça, à la volée, que la personne n'est pas dans son intériorité, elle va facilement aller dans quelque chose de prescrit. Elle va faire ce qu'on lui demande de faire, se mettre en mouvement, mimer quelque chose. Donc, ce qui est potentiellement pas intéressant dans la séance de coaching. Ce qu'on a envie, c'est qu'en fait, la personne se mette en mouvement à partir de son intériorité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, deuxième principe important, c'est que tous nos mouvements à l'extérieur, qui se matérialisent à l'extérieur, naissent à l'intérieur de notre corps, d'accord ? Dans un corps incarné. Et en fait... quand à l'intérieur les choses ne sont pas libres, il y a des blocages, c'est pas fluide, ben à l'extérieur ça ne le sera pas. Donc ça c'est vraiment le deuxième principe de base, c'est comment identifier quelles sont mes forces incarnées dans mon corps et quels sont aussi mes points de blocage et comment les identifier, en prendre conscience, ben parce que dans une séance de coaching on a un objectif, on a des choses à changer, on a des transformations à mener. Donc Donc c'est vraiment ça, c'est poser une intention, une question, être dans une présence à soi, dans le corps, et amener la personne à se mettre en mouvement. Après, autre chose très importante, en fait, la construction du corps, de façon, depuis la nuit des temps et puis depuis notre naissance, elle est faite dans une forme d'organisation, notamment les articulations, qui est identique pour tout le monde. D'accord ? Sauf problème peut-être physique des uns et des autres. On a en fait une architecture qui est la même. Okay ? C'est une architecture, disons, universelle. Et donc, une organisation gestuelle qui, a priori, serait la même pour tout le monde. D'accord ? Sauf que chaque personne va en fait de façon singulière, parce qu'elle a une vie, elle a vécu des choses, des expériences singulières, des expériences qui lui sont propres, va en fait se mettre en mouvement dans des gestes qui pourraient être identiques d'une personne à l'autre, mais elle va se mettre en mouvement différemment. Et c'est ça qui va nous intéresser en termes de grille de lecture, à accompagner, c'est comment dans sa singularité la personne va aller prendre conscience de ses forces, de ses points de blocage, dans l'intention de faire quelque chose, donc d'un objectif, une intention, une transformation qu'elle a menée. Voilà, je crois que je ne vous ai pas perdu.
Non, pas du tout.
On a hâte de savoir comment ça se passe, une mise en mouvement. Parce que du coup, moi, j'imagine, je suppose que les personnes qui nous écoutent aussi, là, sont en train d'imaginer comment ça se passe. Et donc, peut-être que ça donne des envies. Mais voilà, concrètement, alors, raconte-nous une mise en mouvement, ça peut ressembler à quoi ? Si j'ai bien employé le bon terme. Hein.
Alors, tout à fait. Donc, imaginons dans une séance de coaching classique, on se rend compte en fait qu'il y a besoin de faire d'amener le coaché à faire un petit pas de côté. Donc en fait, d'abord on va s'assurer que d'abord concrètement, il faut qu'il y ait déjà une alliance avec le coaché. Mmh. C'est-à-dire que la mise en mouvement...
Oui, c'est pas direct, on arrive, allez hop, on se fait une mise en mouvement. Hein,
non, sauf si les personnes viennent te chercher pour ça. D'accord. Parce qu'on sait bien que le sujet du corps dans notre société, c'est encore un endroit un peu sous couvert,
qui n'a pas été complètement exploré.
Voilà, en tout cas qui a été oublié. Et du coup, donc la proposition, ça serait donc de dire, ok, par rapport à cette thématique, ce sujet-là, on va aller poser la question au corps, parce que le corps, en fait, il nous répond que si on lui pose des questions. Okay. Et pour que ça puisse se faire, en fait, on va d'abord s'assurer que la personne est dans une présence corporelle à elle. Et c'est là qu'on parle en fait de proprioception, c'est la capacité à être connectée à ses ressentis. Donc il y a des techniques pour ça, des formes d'introspection sensorielle et autres. Donc ça, il y a plein d'outils. Et une fois qu'on est dans ça, soit en fait, on va lui proposer une mise en mouvement libre. D'accord, mais ça peut être vertigineux pour des personnes qui
ça peut faire peur.
Peut faire peur.
Et des personnes qui sont pas dans leur corps, surtout, elles vont être complètement.
Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose à manier avec beaucoup de délicatesse. Voilà, pour que ça soit réellement, pour que ça soit bénéfique pour la séance de coaching. Soit on va utiliser en fait ce qu'on appelle des mouvements codifiés. Qui vont permettre à la personne d'abord d'être dans une forme de reproduction du mouvement. Ça rassure, première étape, d'accord ? Et plus la personne est dans son intériorité, et plus elle va se mettre à faire ce mouvement codifié de façon encore plus singulière, à partir de son intériorité. Et nous, dans nos grilles de lecture, et dans ma pratique de coaching de coach perceptif, en fait, on a en fait des grilles de lecture sur les dimensions, la façon d'accompagner la mise en mouvement pour que la personne puisse en fait être dans le mouvement et puis recevoir à partir de l'expression dans le mouvement, je m'exprime, ben là j'ai une impression, donc être touchée par son mouvement. Pour qu'on puisse, à un moment donné, débriefer dans la séance de coaching sur ce qu'elle a vécu. Donc, l'expérience est accompagnée dans une mise en mouvement, soit libre, si on sent que c'est possible, soit dans des mouvements dits codifiés qui ont en fait un certain nombre qui respectent un certain nombre d'univers de sens. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ça va devenir technique. Et puis ensuite, on va prendre l'expérience qui a été vécue et on va aller l'intégrer à la séance de coaching. Alors ça, c'est très important parce que bien sûr, on est en coaching professionnel. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir intégrer l'expérience. Moi, j'aime bien dire déplier l'expérience à partir des sensations qui ont été senties par le coaché, à partir des ressentis de ce que ça a fait, donc de façon crescendo, jusqu'à arriver au sens. D'accord ? Quel sens la personne peut donner à ce qu'elle vient de vivre ? D'accord ? Donc, intention, préparation pour être en présence dans son intériorité, mise en mouvement selon différentes modalités, et puis après, intégration dans la séance de coaching pour tirer le sens, hein, en dépliant l'expérience. J'insiste, parce que si on arrive tout de suite dans le sens, si on arrive dans l'interprétation, ça ne va pas être intéressant. D'accord ? Et surtout si c'est le coach qui interprète.
Moi, j'ai une question. Là, on parle beaucoup de coaching individuel et c'est passionnant d'ailleurs. Merci pour ce partage. Est-ce que cette pratique, comment on peut l'appliquer dans un coaching collectif, dans un coaching d'équipe ? Est-ce que c'est possible et comment ça se fait ?
Alors, c'est tout à fait possible et ça s'y prête très, très bien. En fait, l'approche médiation corporelle par le corps, en fait, c'est juste une approche différente où, en fait, c'est le corps qui est engagé versus d'autres pratiques, hein, dans le coaching. Je prends un exemple. Dans une équipe qui cherche à créer une cohésion, à opérer un changement. Donc tout ça, en fait, tous ces sujets-là, c'est comment chaque singularité va vers ce sujet-là, la thématique, et comment prendre conscience de ces singularités pour qu'en fait, donc toujours dans l'expérience par le corps, okay, comment créer en fait ces rencontres de corps, parce qu'on a beau le dire, en collectif, il y a quand même des rencontres de corps, hein, même si on l'a oublié, il y a quand même des corps. Comment identifier en fait que dans une équipe, par le corps, identifier qu'il y a des personnes qui sont plus dans la vision, il y a des personnes qui sont plus dans l'action, voilà. Mais on l'identifie, on le confirme. On récolte des informations et comme ça vient avec le corps, c'est encore plus puissant.
Et en introduction de cette discussion, tu nous parlais de la danse. Est-ce que la musique peut générer de la mise en mouvement ? Est-ce que c'est quelque chose justement qui donne du sens ? Est-ce que c'est quelque chose qui intervient dans les séances individuelles ou collectives ?
Alors, ça c'est une super question parce qu'en fait, c'est quand je forme les coachs, ils me posent toujours la question. Et en fait, on a tendance à vouloir mettre de la musique pour faciliter. Alors, bien sûr, ça peut être utile et je le fais de temps en temps. Mais la musique, ça doit être un point d'appui. Mais ça ne doit pas être quelque chose qui vient couvrir. Parce que bien sûr, si je mets une musique... Ben voilà, on va se faire plaisir, on va se mettre en mouvement. Bon, ça va être très agréable. On va être dans le bien-être, ça va être super agréable. Mais pour autant, on va pas être dans le processus en fait de la mise en mouvement par de l'intériorité dans sa singularité, parce qu'on va venir coller à ce que la musique nous apporte, d'accord ? Donc ça peut être un point d'appui, mais c'est à utiliser avec beaucoup de parcimonie, parce que sinon ça peut venir en fait dénaturer l'expérience. Voilà. Mais je l'utilise, hein. Et j'essaie de trouver de choisir des musiques assez neutres, parce que si je mets une salsa, je sais que ça c'est parti. J'en connais une ici qui est potentiellement.
Dans cette pratique aujourd'hui, cette pratique à travers le corps, en quoi elle peut être pertinente dans les propositions de coaching ?
Alors. En fait, moi, je suis partie d'un constat que j'ai vécu moi-même quand j'étais dans cette grande structure internationale. En fait, on est tellement amené à devoir changer tout le temps, qu'à un moment donné, on dit « Ok, bah, j'y arrive plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un petit équilibre qui va me permettre de me protéger. » Moi, j'appelle ça l'homéostasie. Bon, même, je sais que d'autres personnes y mettent d'autres choses. Voilà, c'est le fait d'être dans quelque chose, un équilibre en apparence, qui est dans le changement, mais qui ne l'est pas vraiment. Voilà. Donc ça, c'était le constat. Donc on est dans des changements successifs. Et pour moi, en fait, la porte non mentale, quand, c'est en fait aller faire un détour pour que être dans un changement, ce qu'on appelle le changement niveau 2, progressif et durable. C'est-à-dire que ce n'est pas le changement qui va juste être provoqué par un stimuli, mais vraiment changer profondément. Et en fait, dans la mise en mouvement, si elle est faite de façon globale, hein, donc à partir d'une intériorité, en fait, l'approche globale permet à la personne, en fait, d'un moment donné, de ne plus être dans le contrôle dans le contrôle ou dans la reproduction de la façon dont elle fonctionne. Il y a en fait un phénomène d'impression, d'expression-impression, de je fais et je suis dans quelque chose de global, et ça me fait quelque chose. Et donc, potentiellement, pendant ce moment-là, il y a des prises de conscience, mais qui vont être autres de ce que j'ai pu utiliser comme mode de raisonnement, mode d'analyse, ce que j'appellerais les représentations mentales, quoi. En fait, dans cette mise en mouvement, c'est une bonne façon, parce que c'est global, de procéder au réajustement de la représentation mentale qui va permettre le changement de comportement. Parce que le changement, c'est juste le changement de comportement. D'accord ? Mais ce comportement-là, si on le répète depuis des temps et qu'on n'arrive pas à le changer, c'est qu'il y a des représentations mentales qui sont ancrées en nous, qu'on n'arrive pas à changer, notamment par le fait d'en parler. Donc il faut trouver un autre moyen d'ajuster cette représentation mentale. Voilà, ça c'est un peu le phénomène qui se passe. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis...
Mais si je reformule, si j'ai bien compris, ce que tu nous dis, c'est que l'approche corporelle permet finalement de lâcher prise par rapport à un mental qui nous enfermerait dans des systèmes de pensée, voire des fois même des ruminations ou dans notre cadre de référence. C'est ça que tu veux...
Exactement. En fait, ça nous enferme dans du récit, le récit de soi. Et moi, j'aime pas trop le terme de lâcher prise, parce que dans lâcher prise il y a lâcher. Il y a un terme qui est très beau, qui vient de François Roustan, donc hypnothérapeute, psychanalyste, philosophe, qui parlait de perceptude. La perceptude, pour lui, c'est sentir partout à la fois. C'est-à-dire que c'est être présent à soi, mais de la pointe du cheveu jusqu'aux orteils, et au-delà. Donc cette perceptive-là, le fait d'être dans ça permet potentiellement de ne plus être dans le contrôle ou dans le récit
de soi. Et alors, quel lien tu pourrais faire avec la méditation ? Parce que quand tu me dis ça, je pense tout de suite à la méditation qui nous permet effectivement de faire pause, de nous arrêter, de prendre conscience de notre corps, comme tu dis, des cheveux au bout des orteils. Quel lien on peut voir avec la méditation ? Est-ce que c'est d'ailleurs, ça fait partie de tes outils permettre à la personne de sortir du mental ?
Alors en fait, c'est la méditation ou autre technique qui permet d'être dans son corps, c'est le point de départ, c'est ce qui permet la disponibilité dans la mise en mouvement. C'est l'étape numéro une. Et après, il y a toute la mise en mouvement jusqu'à la partie intégration de ce qui a été vécu pendant cette mise en mouvement. Mais c'est vraiment le point A, après avoir formulé l'intention de travail, le questionnement. Après, dans la méditation, en fait, moi, je préfère le terme de... En tout cas, ce que j'utilise, et ça, c'est l'introspection sensorielle. Puisqu'on va essayer de développer notre capacité à être dans la perception de nos sensations.
Ici et maintenant.
Voilà, ici et maintenant. Et donc, il y a vraiment comme un scan du corps. En fait, c'est vraiment un scan. D'ailleurs, ce qui marche plutôt bien en entreprise, parce que du coup, c'est pas je pars dans des métaphores, des images ou autres, c'est vraiment un scan du corps pour aller conscientiser, se remettre en contact avec ses perceptions sensorielles. Voilà.
Merci Saïda. Ça nous passionne. On pourrait en parler des heures. Hein.
Exactement. Oui.
Une très très jolie pratique. Hein.
Oui, moi je découvre cette pratique avec toi et je trouve qu'elle est extrêmement pertinente et elle me parle beaucoup, vraiment.
Alors, il y a une petite tradition dans notre podcast. Est-ce que tu acceptes de nous faire confiance et de t'y soumettre ?
Allez,
tu prends pas tellement de risques. C'est le portrait chinois.
Ok.
Alors, si tu étais une couleur,
je serais un jaune poussin.
Tiens, j'adore le jaune aussi.
C'est notre couleur. Si tu étais un animal,
je serais un cabri. J'adore les cabris.
Et si tu étais un dessert,
Ouais, si j'étais un dessert, je dirais un melon.
Et si tu étais un pays?
Si j'étais un pays, je serais Zanzibar.
C'est bien, ça nous amène tout ça entre le melon et Zanzibar. Moi, je vais partir en vacances, c'est parfait.
Merci beaucoup, Saïda, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous deux. Merci. À vous.